Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 comme tous les mercredis pendant la période universitaire entre 17h30 et 18h. Le développement durable, on connaît de plus en plus cette expression. Elle est un petit peu employée à toutes les sauces. On va essayer de faire un petit peu aujourd'hui le point sur l'économie de l'environnement et le développement durable, quelque chose qui intéresse l'homme, qui intéresse le citoyen, qui intéresse peut-être la survie de la planète. J'ai le plaisir d'accueillir M. Bertrand Zindo, qui est maître de conférence à l'Université de Lille. Bonjour, M. Zindo.
Bonjour.
Donc, c'est un sujet évidemment très important. On se doute qu'il y a des enjeux énormes derrière ce concept de développement durable, que l'environnement, c'est quelque chose de précieux, qu'il faut le préserver, qu'on a déjà fait quand même pas mal de choses pour l'endommager, et qu'il y a tout autour de ça, du rétablissement, on va dire, des équilibres, ou du moins d'essayer de freiner un petit peu des développements un peu anarchiques, entre guillemets. Il y a à la fois un enjeu de survie, mais aussi un enjeu d'économie.
C'est vrai. Alors, je vous propose peut-être de commencer par une définition du développement durable, parce que on a beau en entendre parler et beaucoup, néanmoins, il est très tout à fait possible que beaucoup en parlent justement sans savoir exactement ce que c'est que le développement durable, voire l'utilisent à mauvais escient. Alors la notion, elle apparaît au milieu des années 80, dans le cadre d'un rapport qui a été commandé par l'Organisation des Nations Unies. Et le développement durable apparaît comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Alors vous allez me dire une définition quand même assez alambiquée, un peu compliquée. Et je vais vous en donner une deuxième de définition qui sera peut-être plus compréhensible d'emblée. On présente le développement durable comme étant un développement qui concilie la préservation de l'environnement, l'équité sociale et l'efficacité économique. Et on y ajoute bien souvent une quatrième dimension, c'est la dimension de démocratie, ce qu'on appelle aussi la gouvernance. Voilà donc pour une première mise en contexte de cette notion de développement durable. Alors bien sûr, la préservation de l'environnement au sein du développement durable est parfois, même très souvent, et vous l'avez dit, en tension avec la croissance économique. Et dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, précisément, cette tension s'accentue dès lors que la crise elle-même engendre toute une série de conséquences négatives et on appelle à plus de croissance au risque peut-être alors de pénaliser davantage encore l'environnement.
Alors, pourquoi faudrait-il absolument toujours se développer et pourquoi il ne faudrait-il pas réfléchir sur ce qu'on développe et ce qu'éventuellement on met en veilleuse, sinon on freine? Comment se font les grands équilibres dans le respect de l'homme, de la nature, de la vie sociale aussi, d'une manière générale? Qu'est-ce que vous voyez comme grand chantier d'avenir? Et en plus, on peut imaginer qu'à l'échelle de la planète, les civilisations, les cultures, les pays, les peuples ont des terreaux, des espaces où les règles sont différentes parce que les conditions sont différentes.
Alors, vous posez effectivement une question absolument essentielle. C'est la question du sens même du développement. J'ai parlé en quelques mots du développement durable et effectivement, cette notion a émergé dans les années 80, les années 90. Mais peu à peu, il y en a une autre qui a également pris un certain essor. C'est la notion de décroissance. C'est-à-dire que déjà, le développement durable remet en question une certaine forme du développement, mais d'autres vont plus loin. C'est-à-dire qu'ils interrogent le développement lui-même. Ils remettent en question le développement durable et prônent. Alors c'est vrai que le terme, il est peut-être pas forcément le meilleur parce qu'il a un côté assez provocateur, on peut le dire. C'est le terme de décroissance. C'est-à-dire que, en tout cas pour le moins, la prospérité des sociétés et des hommes ne va pas forcément, en tout cas on entend de plus en plus ce message, ne va pas forcément de pair avec une croissance économique.
Donc on pourrait imaginer qu'il y a une nuance entre le fait de dire une société se développe et le fait de dire une société progresse.
Je dirais il y a non seulement une nuance, mais il y a une différence importante entre une société qui connaît la croissance, et en particulier la croissance économique, et une société qui se développe, et à fortiori une société qui progresse en effet.
Voilà, donc on nous a fait croire pendant longtemps que nous allions, enfin du moins dans notre société française, qui est quand même en gros une société occidentale, dans le sens du progrès incontournable. Qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle des études qui ont été réalisées de ce positionnement des pays occidentaux dans un cadre qu'ils ont amené, hein, qu'ils ont construit au fil des années? Où en est-on et où allons-nous?
Eh bien précisément, quand on utilise un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas des indicateurs stricts de croissance comme le PIB ou le produit intérieur brut, hein, produit intérieur brut par habitant, lorsqu'on utilise des indicateurs alors on parle parfois de PIB durable ou alors d'indicateurs de bien-être, hein. Qu'est-ce qu'on observe notamment lorsqu'on confronte les indicateurs classiques et ces autres indicateurs? Eh bien, ce qu'on constate, c'est que à peu près, hein, jusqu'au milieu des années 70, les deux tendances, dans un premier temps, donc les deux variables sont dans un premier temps relativement confondues. C'est-à-dire que quand progressent les activités économiques, quand on est en situation de croissance, on est aussi en situation de prospérité. Bon. Et à partir du milieu des années 70, et évidemment, la période n'est pas neutre, hein, hein, c'est la période de la première grande crise, hein, que l'on a connue après-guerre, eh bien, les tendances divergent. Hein. C'est-à-dire que la croissance du PIB, et quoi qu'on en dise, elle se maintient relativement, mais en revanche, hein, on arrive à plus qu'un essoufflement, hein. Ça va même jusqu'à des formes de diminution de certains indicateurs rendant davantage compte de la prospérité ou du bien-être des populations. Donc là, il y a un réel problème. C'est-à-dire que plus de croissance n'implique pas plus de alors utilisons utilisez les termes que vous voulez, hein, plus de bien-être, plus de bonheur. Non, au contraire, les voies ont tendance à diverger. Alors c'est bien sûr une idée qu'il est difficile de faire passer à des personnes qui sont dans une situation justement, par exemple, de chômage ou de revenus extrêmement faibles, hein, de leur dire que bon, bah, la croissance n'est pas nécessairement la panacée pour la société, hein. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on observe cette divergence dont je parlais à l'instant, et justement, quant à faire face aux problèmes spécifiques de chômage ou de revenus insuffisants, c'est peut-être une autre solidarité, d'autres formes de répartition qu'il convient de mettre en œuvre. En tout cas, la croissance n'est pas la réponse à ces problèmes de répartition, à ces problèmes de chômage.
Voilà, donc, comme vous venez de le soulever, la répartition des richesses, donc l'effort de croissance, est quelque chose qui est encore bien déséquilibré.
Ah bah certainement, et c'est l'une des caractéristiques qui me font dire que il n'y a pas concomitance nécessaire entre croissance économique et prospérité. Pourquoi il n'y a pas concomitance? Parce qu'en particulier, la croissance, elle se fait avec de plus en plus d'inégalités.
Hein. Alors, vous avez suivi tout particulièrement dans la région Nord-Pas-de-Calais, une zone qui a été très industrialisée et qui maintenant essaie de se restructurer. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, puis nous dire aussi par rapport à cette zone où on va?
Oui, alors effectivement, hein, donc j'ai de toute façon assez particulière travaillé sur la région Nord-Pas-de-Calais et plus spécifiquement encore le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est une zone qui est caractéristique. On pourrait dire pour faire vite que c'est emblématique de ce qu'on pourrait appeler le développement non durable. Hein, c'est-à-dire que c'est une période, c'est un territoire qui a connu une période de croissance économique intensive et qui remonte au 19e siècle, voire au 18e siècle, hein, croissance industrielle lourde, hein, axée sur la mine avec un certain nombre d'industries connexes, hein, on les connaît, hein, c'est la sidérurgie, la métallurgie, la chimie. Bon. Et cette croissance intensive a été très pénalisante, évidemment, d'abord bah, pour les hommes eux-mêmes qui ont pu connaître notamment des problèmes de santé, et aussi pour l'environnement, alors, se traduisant par des friches industrielles, des sols pollués, des nappes phréatiques polluées, une déstructuration du sous-sol aussi liée à l'exploitation minière. Et précisément, moi, je me suis intéressé tout particulièrement à cette variable environnementale hein, dans ce schéma de croissance industrielle qu'a connu le Nord-Pas-de-Calais, et voir aussi quelle était la place des politiques environnementales dans l'effort de restructuration pour essayer de tourner la page, en fait, d'essayer de parvenir à un mode de développement, dans le fond, plus satisfaisant.
Alors, c'est vrai que ce bassin minier, hein, on va dire d'une manière générale, il y a des villes phares, hein, avec des tentatives qu'on espère concluantes de redévelopper des économies plus propres, enfin des industries qui peuvent être même culturelles maintenant.
Oui, alors moi ce que je note, et c'est vrai que la tendance elle est dans le fond relativement récente. Dans le fond, je dois vous dire que moi il y a 10 ou une dizaine d'années, j'étais dans le fond beaucoup plus pessimiste. C'est-à-dire que l'environnement, le passif environnemental m'apparaissait comme vraiment un handicap lourd à dépasser. Qu'est-ce qu'on a pu observer cependant ces dernières années, sous l'influence de certaines politiques bien ciblées, voire de l'action particulière de certains élus, je ne les nomme pas, ils se reconnaîtront peut-être. En fait, plutôt que d'essayer de tirer un trait complet, on a essayé, alors certes, hein, il y a eu tout un travail de résorption des friches industrielles, de dépollution des sols, mais beaucoup plus intéressant, ce qui est apparu aussi, c'est des tentatives pour parvenir à une forme de, pardonnez-moi l'expression, de patrimonialisation hein, de cet environnement très particulier du bassin minier, pour en faire, au lieu d'en faire de reconnaître une faiblesse derrière ça, d'en faire un véritable atout. Hein, à ce point que vous avez actuellement une association qui milite pour essayer de faire reconnaître le bassin minier au titre du patrimoine mondial tel qu'il est labellisé par l'UNESCO.
Alors, ces élus qui décident, néanmoins, hein, c'est eux qui ont le pouvoir, hein, économique et politique, souvent, ça va un peu ensemble. Hein. Est-ce qu'ils ont été conseillés pour en arriver à cette direction, ou est-ce que, intuitivement, ils se sont dit, tiens, il y a quand même quelque chose d'autre que vivre sur des recettes passées?
Bah, vous savez, c'est difficile bon, vous avez un ensemble de causes, et il est très difficile d'identifier laquelle a été la plus importante. Bon, il y a eu manifestement un engouement pour les questions de développement durable à partir du début des années 90. N'oublions pas non plus qu'en 1992, le Conseil régional a eu une présidence verte, hein, Madame Marie-Christine Blandin, qui incontestablement a eu un rôle d'impulsion assez fort en la matière. Bon, alors, par ailleurs, il y a des études aussi qui ont pu montrer que le passif environnemental avait un coût. C'est-à-dire, non seulement, bien sûr, c'est un problème écologique, c'est aussi un problème social, parce que vivre à proximité de friches ou de sols pollués, évidemment, ça crée un certain nombre de problèmes. Je ne vais pas m'étendre sur la question, ça me paraît évident. Mais ça a un coût économique. Bon. Donc, à partir du moment où il y a cette prise de conscience du coût économique, des dommages environnementaux, de l'intérêt de promouvoir, au contraire, un développement durable, il y a un mouvement qui se fait, alors peut-être au départ de façon un peu maladroite. Bon, c'est vrai qu'il faut changer de repère, il faut changer de recette, je reprends votre expression. Ça prend du temps, il y a des obstacles culturels à dépasser. J'ose espérer qu'on est sur la bonne voie, hein. Bon, étant entendu que l'avenir de la région ne dépend pas non plus de simplement des facteurs intérieurs, hein. La région, elle est dans un environnement national et dans un environnement international qui peuvent évidemment avoir des effets, peut-être positifs, mais aussi peut-être négatifs sur le sort de ce territoire particulier.
Voilà. Alors vous avez raison. Ne soyons pas nombrilistes et voyons ce qui se passe ailleurs. je veux dire que quelque part, il existe des exemples, sinon des modèles de restructuration de bassins industriels. Je pense en Belgique, en Allemagne, on trouve des choses assez intéressantes.
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs des exemples dont on s'est inspiré. Hein. Quand je vous disais qu'il y avait des tentatives pour permettre la reconnaissance du patrimoine minier au titre de l'UNESCO, il y a déjà eu des précédents. Il y a déjà eu des précédents en particulier en Allemagne. Donc il y a bien sûr des exemples, hein, il y a des illustrations ailleurs, que ce soit dans le domaine des stratégies de reconversion, mais plus largement, hein, de politique en faveur de l'environnement et du développement durable. Bon, si je peux me permettre une petite réflexion là en la matière, je dirais que ces expérimentations ne manquent pas. La grosse difficulté, c'est, eh bien, en fait, je dirais d'en faire un système véritablement, d'en faire un véritable modèle. Là est le problème. C'est-à-dire que, et indirectement, je fais référence à un ouvrage que nous avons fait publier il y a quelque temps. Hein. C'est-à-dire que le développement durable a besoin d'une seconde étape. Il y a une première étape où effectivement la prise de conscience c'est faite, hein, autour d'un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux. Il y a des expérimentations, elles existent, on pourrait en citer des centaines et en parler assez longuement. La difficulté est celle-là, c'est que toutes ces expérimentations ne font pas un modèle. Et donc il y a un problème de diffusion, de généralisation du développement durable. Là est l'enjeu, je dirais, de cette seconde étape qu'il conviendrait d'affronter là maintenant.
Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de se plaindre de cette désindustrialisation qui au départ a été un petit peu chaotique. Il y a des pays où c'est bien pire, je pense au Mali par exemple, où les mines à ciel ouvert, une fois qu'il n'y a pas eu plus la ressource, on a tout laissé comme ça en plan avec les machines qui ne servaient plus, etc. Je veux dire que là on est presque sur des catastrophes et insurmontables pour cette population qui est un peu démunie. Est-ce que le citoyen a aussi son mot à dire et met la pression, entre guillemets, pour que les choses se règlent plus vite et mieux?
Bien sûr que le citoyen a son mot à dire et certaines ONG, certaines associations ne manquent pas de le dire. Mais faut bien comprendre aussi que je ne sous-estime pas du tout, hein, l'apport, il est essentiel, hein, des ONG, notamment dans le cas de ce qu'on appelle l'altermondialisation. Mais il faut bien comprendre aussi qu'il y a des régulations, il y a des jeux d'acteurs, il y a des stratégies, notamment d'entreprises ou de gouvernements, qui ont un impact autrement plus important. Hein. Alors, bon, pour autant, il ne faut pas non plus être d'un pessimisme excessif. On peut effectivement espérer que ces interpellations, ces actions, hein, qui émanent de ce qu'on pourrait appeler la société civile ou des ONG, hein, bon, je parlais des différents mouvements liés à l'altermondialisation, c'est extrêmement important. Bon, mais c'est aussi une course contre la montre. C'est aussi une course contre la montre. S'il faut 30, 40, 50 ans pour persuader de parvenir à d'autres modes de fonctionnement, d'autres modèles de croissance, d'autres modèles de développement, bien, on peut se demander si dans 50 ans, on n'aura pas atteint certaines, ce qu'on appelle, peut-être avec un langage là aussi technique, des irréversibilités, hein, qui feraient que, eh bien, on aurait atteint des points de non-retour. Dans le domaine du climat, dans le domaine de la biodiversité. Il y a vraiment une course contre la montre. Je pense qu'il faut en prendre conscience. Elle est extrêmement importante.
Alors Bertrand Zwindo, vous êtes maître de conférences en économie et rattaché à un laboratoire de recherche CNRS. Est-ce que justement ce laboratoire prend en compte les spécificités régionales? Est-ce qu'il a une mission particulière par rapport à ce territoire et laquelle?
Alors, donc, moi, je suis dans un labo qui est le Clercé, qui a trois composantes fortes. Hein. Il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des anthropologues. Bon. Et nous travaillons suivant des différents axes scientifiques. Alors, je ne veux pas ici les énumérer tous, hein, mais je vais parler plus particulièrement du mien, ce qui me permettra de répondre à votre question. Depuis quelques années, nous avons effectivement, avec plusieurs collègues, mis en place un axe que nous avons appelé territoire, environnement, développement durable. Vous voyez, c'est très très lié à mon propos d'aujourd'hui. Et effectivement, la dimension territoriale, hein, qui est contenue dans l'intitulé de cet axe, est essentielle. Alors, dimension territoriale, ça ne veut pas dire seulement que l'on s'intéresse à la région, au bassin minier en particulier. Hein, moi, j'ai des collègues qui travaillent sur le Sud, et quand je dis le Sud, hein, c'est le Sud avec un grand S, hein, je parle des pays du Sud. On parle aussi de questions telles que, par exemple, l'équité territoriale, la justice entre les territoires. Bon, donc effectivement, la dimension territoriale est importante et je dirais en termes de mise en œuvre, hein, s'agissant des actions de recherche, nous avons aussi des partenariats privilégiés avec certains acteurs locaux ou régionaux. Hein, on travaille avec le conseil régional, on a pu travailler avec d'autres types de collectivités territoriales, avec des entreprises régionales. Alors quand je dis on travaille avec, le plus souvent, ça prend la forme d'opérations contractualisées, des opérations de recherche contractualisées, ou d'études peut-être plus ponctuelles. Ou alors, bon, pour vous donner un autre exemple, nous avons organisé un colloque international en 2008 qui a impliqué un partenariat important, hein, d'acteurs nationaux, mais aussi d'acteurs régionaux, avec des soutiens financiers assez significatifs.
Voilà, donc votre laboratoire, il est situé dans l'Université Lille.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des publications qui existent sur ces sujets, justement ?
Alors, le Clercé est un laboratoire qui publie beaucoup. Donc oui, des publications, vous en avez beaucoup. Le plus simple pour qui serait intéressé par ces publications, c'est d'aller, bah, tout simplement, hein, en utilisant un moteur de recherche, d'aller sur le site du Clercé, hein, sur Internet. Bon, moi, ce que je peux vous dire, s'agissant plus particulièrement de notre axe, oui, il y a pas mal de publications. Alors, vous avez certaines publications qui ne sont pas, disons, grand public. Hein. Ce sont des articles publiés dans des revues internationales, bon, assez techniques, hein, ou assez académiques. Qu'on vient de le reconnaître, mais vous avez aussi des ouvrages beaucoup plus ouverts, je dirais, en termes de public. Je faisais référence là même il y a quelques minutes à un ouvrage que nous avons fait paraître suite au colloque d'ailleurs de 2008, le développement durable, la seconde étape. C'est un ouvrage en fait qui a repris plusieurs conférences plénières qui ont été données dans le cadre du colloque en question. Bon, j'y ai ajouté une introduction générale et je serais tenté de dire que c'est un ouvrage qui est assez représentatif de ce que nous faisons dans le cadre de notre laboratoire, en tout cas dans le représentatif de l'axe TED dont je parlais précédemment.
Donc, bien sûr, il y a la recherche, il y a aussi les études qui y mènent ou qui y sont associées. Est-ce qu'on peut dire que le développement durable, c'est aussi une forme d'emploi durable ?
Alors, le développement durable, c'est une forme d'emploi durable. D'abord, il faudrait définir ce qu'on entend par emploi durable. Bon, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Quand on dit emploi durable, ça peut signifier emploi pérenne, hein, emploi qui dure dans le temps. Bon, c'est une première façon de voir les choses, mais je serais tenté de dire... Quelqu'un qui serait salarié dans l'industrie de l'armement pendant 50 ans, bon, il a peut-être un emploi durable, il n'est pas, à mon sens, par son activité représentative de ce que devraient être des activités durables, au sens du développement durable. Alors il y a donc une deuxième signification qu'on peut donner à cette notion d'emploi durable, c'est-à-dire un emploi, effectivement, qui serait à rattacher à des activités elles-mêmes représentatives du développement durable. Par exemple, des actions de prévention environnementale. Des actions de prévention environnementale conduisent forcément à la création d'emplois. On pourrait alors, avec ce sens-là, parler d'emploi durable.
Alors, il y a en ce moment tout un développement d'emploi, on va dire, une niche d'emploi autour de la médiation, médiation sociale, médiation culturelle. Est-ce que la médiation à l'environnement, c'est quelque chose qui va encore se développer?
Alors c'est très difficile à dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le disais à propos de la région dans un environnement économique qui s'impose à elle, hein, elle a assez peu de prise sur ce contexte particulier. Toute forme d'activité, d'une certaine manière, est redevable de ce contexte général, que ce soit l'environnement ou le reste. Bon. Parfois, on est assez dithyrambique sur la croissance verte. Bon, oui, pourquoi pas. Il vaut mieux promouvoir la croissance verte que d'autres formes d'activité, hein, c'est très certainement. Cela étant, la croissance verte, comme les autres croissances, je dirais, sont très dépendantes du contexte économique international. Alors, s'agissant de la médiation environnementale, on peut émettre le souhait que ce type d'emploi puisse progresser, on peut émettre que ce type d'emploi puisse être favorisé, aidé, éventuellement même par des subventions. De là à répondre, dans la situation actuelle, que des emplois nombreux vont se créer dans ce secteur, je crois que ça serait très hasardeux de le faire.
Alors, monsieur Bertrand Zwindo, donc, si vous aviez un vœu, des conseils, des orientations à proposer, ce serait quel ?
Je crois que l'information est importante. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de l'information, mais me semble-t-il, on n'est pas encore parvenu, je dirais, à une acculturation au développement durable. Hein, une prise en compte à tous les niveaux de la société, dans les entreprises, dans les administrations. Je ne nie pas, hein, les efforts importants qui ont été faits en la matière, mais je crois qu'il y a encore une progression là possible et sans doute ce serait là, me semble-t-il, une orientation à conforter. Bon, alors bien sûr, après, on peut exprimer le souhait que dans tel ou tel domaine, on puisse avoir des actions plus volontaristes. Bon, je pense par exemple à l'écotaxe destinée à lutter contre le changement climatique. Hein. Vous n'ignorez pas, il y a eu une tentative qui a été avortée il y a quelques années de mettre en place une écotaxe au niveau national. Bon, il s'est avéré que pour différentes raisons d'opportunités politiques, non pas économiques, mais d'opportunités politiques, le projet n'a pas en définitive abouti. Bah, il serait souhaitable effectivement que de telles orientations puissent être validées. Quand on fait un inventaire, un bilan de l'après-Grenelle, bon, on constate et malheureusement qu'un certain nombre d'intentions qui étaient contenues dans ce Grenelle de l'environnement, l'écotaxe, la baisse, la diminution des pesticides, la taxe sur les poids lourds, etc., malgré tout, on n'a guère avancé sur ce type de questions.
Bien, monsieur Zwindo, je vous remercie beaucoup.